Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le thème du pardon, un thème qui revient tout au long de la Bible. Ainsi, durant les premières émissions, nous parlerons du pardon que Dieu accorde aux hommes. Puis nous réfléchirons sur le fait que si Dieu pardonne, il nous demande aussi de pardonner à tous ceux et celles qui nous ont offensés ou blessés.
La dernière fois, nous avons commencé à aborder ce sujet en nous penchant sur l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons ouvrir à nouveau l'évangile de Luc pour réfléchir sur des textes qui nous racontent la crucifixion de Jésus. Or, ces textes nous parlent aussi du pardon. Cédons donc la parole à Sandra pour une première lecture. Luc chapitre 23, versets 32 à 38.
Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. »
Merci. Le moment est venu d'accueillir Jean-Marc sur le plateau. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Ce qui, pour le moment, va retenir notre attention, c'est la prière de Jésus lorsqu'il s'écrie « Père, pardonne-leur ».
Arrêtons-nous un instant sur le contexte de cette prière.
Oui, Jésus a prié « Père, pardonne-leur », alors qu'il était suspendu sur une croix. Les poignets et les chevilles transpercés de clous. La crucifixion est une peine parmi les plus cruelles, brutales et humiliantes conçues par les hommes. Les victimes enduraient des douleurs atroces et s'affaiblissaient lentement avant de mourir asphyxiées, car elles ne pouvaient plus respirer. Jésus a été condamné à tort par un tribunal disposé à accepter de faux témoignages et un gouverneur romain plus soucieux de ses intérêts politiques que de justice. Il a donc enduré la violence et l'humiliation de la croix. Les foules déchaînées à ses pieds étaient témoins de ce spectacle lugubre et se moquaient de lui. C'est dans un tel contexte que Jésus prie. Sa prière nous dévoile son cœur disposé à pardonner.
C'est à la fois incroyable et émouvant. Mais à qui Jésus pensait-il en priant ainsi?
Jésus pensait sans doute à tous ceux qui refusaient de croire qu'il est le roi sauveur, l'envoyé de Dieu promis par les prophètes. À cause de sa crucifixion, les gens déçus le rejetaient. Ils avaient l'impression que leurs attentes à son sujet avaient été trompées.
Et pourtant, dans cette atmosphère chargée de haine et de violence, Jésus prie, « Père, pardonne-leur. »
Oui, en effet. Jésus avait enseigné aux foules, « Aimez vos ennemis. » Et dans sa prière, Jésus leur prouve sa passion, son amour inébranlable pour eux, ses ennemis. Il sait que la haine de ces gens, leur rejet, va les destiner au châtiment éternel, et il est ému de compassion. Il désire que ces gens échappent à ce destin. Il sait que le seul moyen d'échapper à cette condamnation et qu'ils reçoivent le pardon de Dieu. Voilà pourquoi Jésus prie ainsi. Toutefois, cette prière de Jésus s'adresse non seulement à ceux et à celles qui ont participé aux événements de la crucifixion, mais aussi à nous, aujourd'hui.
Vos propos sont assez étonnants. Expliquez-vous, s'il vous plaît.
Encore de nos jours, les gens rejettent Jésus. Ces personnes refusent de reconnaître qu'il est le Seigneur et qu'il règne. Que ce soit par indifférence, par haine, ou par égoïsme, une telle attitude, bannir Jésus de sa vie, destinera ces gens au jugement divin. Si tel est votre cas, cher ami, Jésus prie pour vous et il est disposé à vous accueillir. Il désire tout vous pardonner.
Revenons au récit de la crucifixion trouvé dans l'évangile de Luc. Nous pouvons nous demander si, parmi cette foule qui criait sa haine envers Jésus, certains réalisaient leurs erreurs, la gravité de leur péché. Pour répondre à cette question, cédons la parole à notre lectrice pour une nouvelle lecture de l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 39 à 43.
L'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec !» Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure. » Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
Deux criminels étaient donc crucifiés en même temps que Jésus. L'un se tenait à sa droite et l'autre à sa gauche. L'un de ces criminels reprenait les moqueries de la foule et insultait Jésus. Toutefois, l'autre montrait une attitude différente.
Oui, l'attitude du deuxième criminel prouve qu'il veut vivre le pardon de Jésus.
Dites-nous pourquoi.
Cet homme subissait la peine de mort pour des actes criminels qu'il avait commis, et pourtant Jésus lui assure qu'il entrera dans le paradis, c'est-à-dire qu'il ira au ciel et qu'il vivra éternellement avec Dieu. Or, nous le savons, personne n'est accepté au paradis à moins de recevoir le pardon de Dieu. Alors ce repris de justice qui crie « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner » prouve qu'il est en quête de pardon.
Comment décririez-vous sa démarche? Quelle attitude cet homme avait-il envers Jésus?
Je voudrais relever trois qualités importantes qui caractérisent ce repris de justice. Tout d'abord, l'humilité. Ce criminel, bien que suspendu sur une croix, reconnaît sa propre culpabilité. Il prouve qu'il est conscient de la gravité du mal qu'il a commis. Il avoue que son châtiment est juste et il confesse sa faute. De plus, ce criminel craint Dieu. Il comprend que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il est convaincu que malgré le chaos environnant, Jésus est réellement Seigneur, le roi sauveur qui accomplira les promesses des prophètes. Il proclame de ce fait l'innocence de Jésus. Il sait que ce dernier n'a rien fait pour mériter un tel sort. Enfin, la foi de cet homme est évidente. Conscient de sa culpabilité, il fait appel à Jésus. Il lui demande d'intervenir en sa faveur.
Croire en Jésus en de pareilles circonstances, quelle démarche de foi incroyable!
C'est vrai, Yann. Tous méprisaient Jésus. Or, cet homme seul le défend. Il se confie même en lui. À vue humaine, Jésus ne pouvait rien pour cet homme. Et pourtant, ce criminel fait appel à lui, comme si personne d'autre que lui ne pouvait venir à son secours. Alors que tous pensaient se débarrasser de Jésus, seul cet homme voit plus loin. Il est convaincu que la mort n'anéantira jamais Jésus. Il croit pour certain qu'il détient les clés de la vie éternelle. Alors oui, dans un tel contexte, la foi de cet homme est remarquable.
Et Jésus répond à son acte de foi en lui assurant « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. »
Oui. En Genèse chapitre 2, au tout début de la Bible, nous découvrons l'existence du paradis, ce lieu où l'homme vivait en communion parfaite avec Dieu. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, et de notre propre désobéissance, Dieu a dû bannir l'humanité entière de cet endroit merveilleux. Toutefois, Jésus déclare que le chemin qui mène au paradis est de nouveau ouvert, et sur ce chemin, nous devons d'abord recevoir le pardon de nos fautes.
Donc cette promesse donnée à cet homme, qu'il allait désormais vivre à jamais dans le paradis, est une déclaration que Jésus sur la croix allait obtenir son pardon.
Oui, nous ignorons quels sont les crimes que cet homme a commis pour être condamné et crucifié. Nous ne savons pas non plus quel a été son cheminement dans la vie. Ce que nous savons, c'est que Dieu lui a pardonné toutes ses fautes. Puis, cet incident nous révèle aussi la profondeur de la grâce de Dieu.
Donnez-nous la définition du mot « grâce ».
La grâce, c'est recevoir l'amour de Dieu. C'est vivre sa faveur alors que nous ne la méritons pas. Oui, Dieu nous accorde son pardon par grâce. Le pardon n'est ni une récompense, ni un salaire qui nous est dû. Nous ne pouvons rien accomplir pour le mériter. D'ailleurs, l'homme crucifié aux côtés de Jésus, celui qui reçoit cette assurance de la vie éternelle, en est l'illustration. Le passé de cet homme ne pouvait pas le recommander auprès de Dieu. Il parlait contre lui. Il avait commis des crimes et ces crimes nécessitaient la peine de mort. Cet homme ne pouvait rien pour effacer ses mauvaises actions. Il ne pouvait pas les annuler. Il ne pouvait pas non plus offrir son avenir à Dieu car il était sur le point de mourir. Toutefois, Jésus offre à cet homme un cadeau d'une valeur inestimable, le pardon des péchés et la promesse de vivre à jamais dans le paradis. Un tel privilège est donné par grâce à quiconque met sa foi en Jésus, tout comme cet homme a placé sa foi en lui.
Il me semble que l'apôtre Paul a parlé de la foi et de la grâce dans son épître aux Éphésiens.
Oui, en effet, lisons au chapitre 2, les versets 8 à 10. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'en a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. »
Merci de nous avoir lu ce texte si clair au sujet de la grâce. Jean-Marc, comment allez-vous conclure cette émission?
Nous vivons dans un monde où tant de gens se moquent de Jésus et le rejette. Alors au lieu de suivre l'exemple des foules, nous vous encourageons à vous tourner vers Jésus et à mettre votre foi en lui. Une telle démarche passe par l'acceptation de sa propre culpabilité, par la confession de ses fautes, et enfin par le désir que Jésus intervienne dans notre vie et nous accorde son pardon. L'enjeu est de taille, car il s'agit d'une question de vie ou de mort. Or, nous le savons, la porte qui mène au paradis est ouverte à quiconque s'humilie devant Dieu. Toutefois, elle reste fermée à tous ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Jésus.
Merci Jean-Marc. La prochaine fois, nous nous pencherons sur les écrits des apôtres pour démontrer que le pardon de Dieu a été acquis grâce à l'amour de Jésus sur la croix.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.